Il est écrit au tout début de notre paracha que des juges et des policiers tu placeras pour toi dans toutes tes portes, les portes de tes villes, que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Rashi va expliquer que les juges représentent les personnes qui vont trancher la loi et que les policiers sont ceux qui ont autorité sur le peuple pour sévir en cas de besoin avec un bâton et une lanière afin de faire accepter au coupable la sentence du juge. Maintenant, dans le Dvar Malchut, le Rabbi va expliquer que, comme dans les temps futurs, l'Éternel va effacer l'esprit d'impureté de la terre, donc le mal sera avalé, lui disparaîtra, les juges n'auront plus du tout l'occasion d'appliquer la moindre sentence aux enfants d'Israël, car le mal sera effacé et n'aura donc plus aucune emprise sur l'homme. Dès lors, on voit que la fonction du juge sera d'enseigner la Torah et le policier sera remplacé par le conseiller. Comme il est dit, le prophète Ishaïa l'a déclaré, « Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. » Donc on voit que contrairement à la paracha Shoftim, dans laquelle il fait mention de juges et de policiers, le prophète Ishaïa y mentionne des juges et des conseillers. Et le rabbi va souligner à ce sujet que le conseiller, il est différent du policier. Le policier, il n'agit que par la force, alors que le conseiller, il est proche de l'homme. Il va mettre à sa portée les choses. Donc on voit que dans les temps messianiques, les juges, ils enseigneront la Torah aux enfants d'Israël. Ils vont enseigner des concepts divins qui sont très élevés. Et la fonction des conseillers sera alors de mettre ces concepts à la portée des hommes. Le conseiller, c'est donc celui qui nous permettra d'intégrer la Torah de manière profonde. Donc on voit ici, si on regarde les choses un peu de manière profonde, on voit que le juge, il représente l'enseignement divin tel qu'il est à un niveau supérieur, comme on l'a déjà dit dans des cours précédents, que l'homme il doit toujours retourner vers ce niveau de la Torah qu'il a apprise quand il était dans le ventre de sa mère, c'était une Torah qui était à un niveau supérieur. C'est une Torah qui dépasse tous les autres niveaux de la Torah, c'est l'essence même de la Torah. Donc le juge, il représente l'essence de la Torah finalement, alors que le conseiller, c'est celui qui va faire descendre ces concepts divins qui sont très élevés, il va les faire descendre et il va les mettre à la portée de l'homme. Donc d'un certain côté, on pourrait dire que le juge lui-même, il représente la Torah de Dieu, le juge il représente d'une certaine manière le Saint béni soit-il, et le conseiller, il représente le rabbi lui-même, puisque c'est celui qui est capable d'intégrer un enseignement divin supérieur et de le mettre à la portée de la communauté des enfants d'Israël. Donc on peut dire aussi que le juge, à ce moment-là, il représente le Machiar lui-même, puisque surtout la Torah du Machiar, plus précisément la Torah que Dieu va donner au Machiar, qui est lui-même, qui représente le conseiller, c'est-à-dire celui qui va faire descendre ce niveau supérieur de la Torah, l'essence de la Torah, pour qu'elle soit reçue par tous les enfants d'Israël. Donc le sujet qui est ici, le sujet du Dvar Malchut, c'est celui de recevoir quelque chose qui est très élevé, recevoir un dévoilement qui est très élevé. Ce principe-là, il revient sans cesse dans la Chassidoute. On le voit vraiment dans tous les discours chassidiques du Rabbi, on voit l'importance d'intégrer de manière profonde des enseignements supérieurs. Et ça s'accorde avec un enseignement du Rabbi Rachab, puisque le Rabbi Rachab a expliqué que toute l'année, pendant tous les mois de l'année, on doit servir Dieu au moyen des forces qui sont révélées en nous-mêmes, c'est-à-dire au moyen de notre intellect, au moyen de nos sentiments et bien sûr de nos actes. Mais on va agir seulement avec la partie révélée de notre âme, avec les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Alors que pendant le mois d'Eloul et le mois de Tishri, les jours redoutables, justement ces jours qui précèdent le jugement divin, le Rabbi Rachab, il explique qu'un juif, il doit travailler avec l'essence de son âme. Il doit dévoiler la partie la plus profonde de son âme. C'est-à-dire que toute l'année, il va travailler avec les forces de son âme qui sont révélées en lui-même et qui sont d'une certaine manière limitées. Mais pendant le mois d'Eloul, il va dévoiler la partie illimitée, la partie infinie de son âme, « Chelek Elokam Imal Mamash ». Donc cette opposition qui existe entre la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme, ça rappelle cette idée-là, l'idée du juge et l'idée du conseiller. L'idée du juge, elle représente justement cette partie de l'âme qui s'habille pas dans le corps, ce qui est relatif à des dévoilements divins qui sont supérieurs. L'idée du conseiller, c'est celui qui va mettre à notre portée, c'est-à-dire faire descendre ces enseignements très élevés de manière à ce qu'ils ne fassent plus qu'un avec nous-mêmes. Parce que intégrer des dévoilements supérieurs, des dévoilements qui découlent de l'essence même de la Torah, ça demande un travail vraiment de notre part, et ça demande aussi qu'il existe un intermédiaire entre justement l'essence de la Torah et nos forces qui sont limitées. Donc ça, c'est le rôle du conseiller, c'est le rôle du rabbi, celui de mettre à notre portée des enseignements qui sont supérieurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment de servir Dieu avec l'essence de notre âme? Que représente le service divin qu'on doit accomplir pendant le mois d'Eloul? Quand c'est un mois, on dit que le roi est dans les champs, donc on voit ici qu'il y a aussi une allusion, le roi, ça représente l'essence divine, et le champ, ça représente ce monde matériel, ça représente vraiment même cette partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui est limitée, et ça représente aussi, on peut dire, l'âme animale, qui cherche sans cesse à assouvir des désirs qui sont matériels. Donc ça évoque bien un champ, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à un monde matériel, à un monde qui est limité, qui possède des mesures, dans le monde, un monde dans lequel on doit agir. Le roi est dans les champs, ça signifie qu'on doit attirer justement dans le champ, dans les parties les plus viles et les plus grossières de nous-mêmes, le roi. On doit faire descendre ce dévoilement divin jusqu'à ce qu'il influence véritablement notre nature. Les champs, ça représente notre nature. Et le roi qui est dans les champs, ça représente ce dévoilement de l'essence divine, justement, dans notre nature, en nous-mêmes, afin que l'essence, elle touche les niveaux les plus bas, les plus inférieurs. Ça rappelle l'idée même que le Machiav a donnée au Baal Shem Tov, « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur ». C'est-à-dire les sources qui se répandent à l'extérieur, c'est justement le roi qui est dans les champs, c'est le roi qui descend dans les champs, c'est l'essence de la Torah, la chassidoute qui va descendre jusque dans les aspects les plus matériels et les plus grossiers pour transformer ce monde matériel. C'est d'ailleurs l'idée même du titre de l'ouvrage du Rabbi Rachav, la source, puisque ce livre-là, il se base sur le fait que dans les temps futurs, il y a une source qui jaillira de la maison de Dieu pour arroser la vallée de Chittim. Et le Rabbi Rachab explique que le mot Chittim, la vallée de Chittim, ça fait référence à Shtout, l'esprit de folie du Yetzer Hara. Cette source qui va arroser la vallée de Chittim, ça représente justement l'esprit divin qui va anéantir, qui va transformer l'esprit de folie qui est en nous-mêmes et qui est dans ce monde. Donc, cette source qui jaillit de la maison de Dieu et qui arrose la vallée de Chittim, ça représente aussi cette idée-là, le roi est dans les champs. Alors, de quelle manière on peut dévoiler pendant ce mois d'Eloul cette source, puisque la source, précisément, ça représente la lumière de l'essence de l'âme qui se répand et qui va influencer les forces de notre âme qui sont révélées dans le corps, qui vont influencer notre intellect, qui vont influencer nos sentiments et nos actes. Alors, on pourrait se rappeler d'une histoire que l'Admor HaZaken a expliquée, une histoire des prophètes, dans laquelle il est raconté que la femme d'un prophète est allée voir un jour le prophète Elisha en lui disant que elle, depuis qu'on avait pris ses enfants, elle n'avait plus son mari, elle se retrouve seule, elle ne ressent plus d'amour pour Dieu du fait de toutes les épreuves qu'elle rencontre. Et elle va voir le prophète Elisha pour lui demander conseil. Donc elle est dans une souffrance terrible. Elle lui demande vraiment conseil. Comment servir Dieu quand on ne ressent plus d'amour pour lui, quand on ne ressent plus de crainte pour lui? À ce moment-là, le prophète lui a répondu, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Quel bien il te reste? Puisque tu n'as plus ton mari, puisque tu n'as plus tes enfants, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Et il lui restait en fait une grande cruche d'huile. À ce moment-là, le prophète lui a dit de prendre de cette huile et de la verser dans des petits récipients et de les vendre au marché. Et avec cet argent, de pouvoir vivre et de vivre même avec le reste de l'huile qui lui reste, une fois qu'elle a rempli tous les petits récipients qu'elle a vendus au marché. Donc, à travers cette histoire-là, l'Admor HaZaken, il va délivrer un enseignement qui est précieux et qui s'accorde vraiment avec la question qu'on a posée au départ. Comment révéler l'essence de l'âme? De quelle manière la révéler? Et pourquoi la révéler? L'Admor HaZaken va expliquer que cette femme-là qui se rend chez le prophète, elle représente en fait l'âme juive. Et le prophète lui-même, il représente le Saint béni soit-il. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait des dettes, elle avait plus les moyens de subvenir à ses propres besoins, puisqu'elle avait plus son mari. Et donc le créancier lui a pris ses enfants comme garantie. Il lui a dit, quand tu rembourseras tout ce que tu me dois, alors je te rendrai tes enfants. L'Admor HaZaken a expliqué que cette femme-là, elle représente l'âme juive elle-même qui s'adresse à Dieu. Et les enfants que le créancier lui a pris représentent l'amour et la crainte de Dieu. C'est-à-dire que le créancier lui-même, c'est le Yetzer Hara, et l'amour et la crainte de Dieu sont les deux enfants. La femme elle-même représente l'âme juive et qui s'adresse à Dieu et qui lui dit, voilà, je n'ai plus d'amour et je n'ai plus de crainte vis-à-vis de toi. Comment te servir dans ces cas-là? À ce moment-là, le Saint béni soit-il lui répond, lui dit, qu'est-ce qui te reste? Alors, il lui dit, il me reste une cruche d'huile. Cette cruche d'huile, elle représente l'essence de l'âme juive. Dieu lui conseille alors de prendre de cette huile et de remplir des petits récipients. L'Admor HaZaken nous explique que ces petits récipients, ils représentent les mitzvot, les commandements divins, toutes les mitzvot qu'un juif doit accomplir. Et l'huile elle-même, comme c'est l'essence de l'âme, en fait, on comprend que Dieu il lui dit, puisqu'il ne te reste plus l'amour, il ne te reste plus la crainte de Dieu, la crainte pour moi, l'amour et la crainte, tu n'en as plus, alors tu vas continuer à accomplir mes commandements, mais au moyen de l'huile, c'est-à-dire au moyen de l'essence de ton âme. C'est-à-dire avec cette faculté, cette capacité de recevoir, d'accepter le joug divin. Kabbalat ol malchut shamayim. C'est ça la qualité qui dérive de l'essence de l'âme, c'est cette soumission la plus totale vis-à-vis du Saint béni soit-il. Le Rabbi Rachab, justement dans le livre La Source, il a expliqué que quand on dit du peuple juif qu'il a la nuque raide, ça fait référence justement à Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire cette inébranlable détermination d'agir et d'obéir aux commandements divins, même si soi-même on ressent pas l'amour et la crainte de Dieu, on agit uniquement parce que Dieu l'a ordonné. Et donc c'est ce point-là qui est important pendant le mois d'Eloul, c'est de réveiller justement Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin. Le roi est dans les champs, c'est-à-dire que je vais à la rencontre du roi et je prends sur moi Kabbalat Ol, je prends sur moi ce joug divin, et même si je ne connais pas en moi-même, même si dans mon cœur il n'y a pas d'amour et de crainte révélée dans le cœur, alors j'agis uniquement par soumission, par la soumission la plus totale vis-à-vis du Saint béni soit-il. Il y a une deuxième histoire qui peut nous aider aussi à faire un lien avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est l'histoire du Baal Shem Tov qui a un jour demandé à un de ses chassidim de se préparer pour sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors ce chassid, il avait tellement pris à cœur cette mission qui lui avait été confiée par le Baal Shem Tov, qu'il a commencé à réfléchir à toutes les kavanotes, à toutes les intentions, à la manière dont il allait sonner du shofar. Et il avait tout rédigé sur un petit papier, qu'il avait soigneusement rangé dans sa poche, et qu'il avait gardé justement pour ce jour-là, au moment, avant de sonner du shofar, de se rappeler bien et d'avoir devant ses yeux ce papier sur lequel il avait noté des indications sur chaque intention, sur chaque sonnerie. Et il gardait précieusement ce papier dans sa poche. Et le jour de Rosh Hashanah, au moment où il devait commencer à sonner du shofar, il retrouvait plus ce papier. Alors l'histoire est dit que même c'est le Baal Shem Tov lui-même qui a fait en sorte que ce papier s'égare. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il souhaitait que cet homme-là sonne du shofar sans le papier qu'il avait préparé au préalable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il allait sonner du shofar? Voyant qu'il ne trouvait plus le papier, il s'est mis à sangloter, à pleurer. Il s'est mis à paniquer. Et il a commencé à sonner du shofar avec justement ces pleurs-là, avec ces sanglots-là. Et il a sonné du shofar tellement bien que le Baal Shem Tov l'a félicité et qu'il a été vraiment étonné, il a été sauvé, si on peut dire, même par ses propres pleurs. Donc on voit que le son du shofar lui-même, il s'accorde avec l'essence de l'âme elle-même. C'est-à-dire que pendant toute l'année, quand on dit qu'on doit s'adresser à Dieu, on doit servir Dieu au moyen des forces révélées de notre âme, ce n'est pas le cas pendant le mois d'Eloul, pendant le mois de Tishré, où on va révéler la force de l'essence de l'âme, où on va dévoiler ce cri intérieur, ce lien qui correspond en fait au lien de l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine. C'est ça le son du shofar. Il y a plusieurs histoires évidemment sur le shofar. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est on doit comprendre que le son du shofar lui-même, c'est le dévoilement du désir le plus profond et le plus intérieur de chaque juif, celui de reconnaître Dieu moderni, celui de se soumettre à la volonté de Dieu comme un fils qui se soumit à son père, comme un sujet qui se soumit à son roi. C'est pour ça que la crainte et l'amour de Dieu, elles sont exprimées aussi par l'idée du fils, parce que le fils il va agir parce qu'il aime son père, et aussi par l'idée d'un serviteur qui va obéir à son maître parce qu'il le craint. Donc on voit ici que dans notre parasha Shoftim, dans le Dvar Malchut, le Rabbi explique que le juge y correspond à ce qui est divin, ce qui transcende l'homme, alors que le conseiller lui-même y représente celui qui va faire descendre justement ce qui dépasse l'homme et qui va le mettre à sa portée de manière à ce qu'il intègre. Donc cette idée-là, c'est vraiment l'idée de recevoir les dévoilements supérieurs, et c'est le cas ici dans les histoires qu'on a racontées, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme, de dévoiler ce cri, de dévoiler ce lien qui nous unit à Dieu, de manière à l'intégrer de manière profonde en nous-mêmes et à le faire refléter dans nos actions. C'est vraiment dévoiler les sens divines dans les forces de l'âme qui sont elles-mêmes limitées. C'est vraiment unir ce qui est limité à ce qui est limité. C'est le travail de Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi, ça représente justement ce travail de s'élever par nos propres efforts, et Dodili, ça représente le dévoilement qui vient d'en haut. Donc ça s'accorde aussi avec cet enseignement de la Morazaken, on peut finir là-dessus. Celui qui travaille pendant la semaine, il va manger le jour du Shabbat. Celui qui toute l'année va servir Dieu au moyen des forces de son intellect, qui va s'élever au-dessus de ses propres limites, il va manger le jour du Shabbat, c'est-à-dire que au moment du Shabbat, il va recevoir le dévoilement de l'âme supplémentaire, le dévoilement de l'essence de l'âme. Maintenant, l'idée qui est donnée ici par le Rabbi, c'est celle du conseiller, c'est-à-dire que c'est celui qui va faire en sorte que ces dévoilements ne restent pas provisoires. Le Rabbi, c'est celui qui va nous aider à dévoiler justement cette partie de notre âme qui est supérieure, mais surtout qui va s'attacher à l'intégrer dans la partie de l'âme qui s'habite dans le corps. C'est-à-dire à ce que notre capacité à accomplir la volonté de Dieu au-delà de toutes les limites, ça devienne notre seconde nature. L'habitude devient une seconde nature. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que ce Shabbat soit vraiment l'occasion pour nous vraiment de recevoir le dévoilement du Mashiach, et même avant, si Dieu veut, Shabbat Shalom ou Mevorach.